C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Vous êtes déjà déchaînés. On dirait que le camping, ça touche les gens, Tammy.
Ça touche les gens, pas à peu près. Mais c'est surtout qu'il faut faire tellement beau. Il fait beau. Ça donne envie d'en parler. Mais là, je vous en parle de façon un peu négative parce que c'est une aventure qui est arrivée à une dame, une Québécoise, qui était dans le coin de l'Ontario, dans un parc national. Okay. Elle s'est faite voler tout ce que vous pouvez imaginer dans un camping. Elle était seule et là, elle a eu comme un téléphone d'une amie qui habitait pas loin. Elle s'est dit, exceptionnellement, je vais partir pour la nuit chez cette amie-là. Le lendemain, quand elle revient, vraiment, tout a disparu.
Sur son terrain, mettons, elle avait une tente ou une
tente? La tente, voyons.
Out. Donc. La tente de cuisine, out.
Ben
le grill, out. La nourriture, out. Son lit escamotable, out. La petite glacière, out. Toute la bouffe, out.
Ben, vraiment,
il n'avait plus rien. Ils ont tout volé. Elle dit, ils ont laissé un fond de café. Tu sais, mettons, c'est tout ce qui restait. Ils n'ont pas pris mon fond de café Starbucks, mais ils ont volé tout le reste.
Mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait quasiment entendu sa conversation parce que tu peux pas voler ça de dernière seconde comme ça en disant, elle pensait jamais que la personne va revenir.
Elle est en mode parano, exactement. Elle se dit, voyons. Puis surtout que, Billy, ça arrive jamais que tu te fasses voler dans un camping.
Ah, je sais pas.
Pour vrai, jamais. Là.
On va parler d'une
majorité d'auditeurs. Là. Peut-être tu peux te faire voler de l'alcool dans une glacière, mais pour vrai, la majorité des gens,
il n'y a rien.
Ben, tu sais, ça prend une méchante motivation. Rentrer sur un terrain de camping avec un gros. Tu sais, ça prenait quelque chose pour charger. Là,
sinon, ceux qui sont là sont dans le même bateau, entre guillemets. Là. Ben, tu mets la même chose, puis c'est comme, comme jouer au hockey. Là. Tu ne voles pas le hockey de ton chum à côté.
Ben, c'est ça. Tu sais, il y a comme une loi non écrite, mais les propriétaires qui ont été interrogés suite à ça de camping disent, ben non, c'est tellement. Surtout pas de cette ampleur-là. C'est vraiment. Pas,
elle s'est fait stripper au complet. Là. C'est épouvantable. C'est presque une scène de film, ça, c'est dit.
Ah, oui,
là.
Ben oui,
c'est presque
là,
drôle. Tu reviens et il y a juste ton fond de café.
Ben oui. Là, ouais, dit, ça va coûter cher de tout réinvestir pour acheter tout ça. Être un peu découragé, elle va le faire. Ceci dit, ils ont volé les huiles, les casseroles, les ustensiles, les assiettes, les lanternes, son shampoing, le savon à vaisselle.
Puis tu te constitues ça avec le temps. T'sais, à un moment donné, tu dis, j'avais telle lampe en camping, ça marchait pas, là, j'achète la patente, puis après ça, tel oreiller, puis tel, je dis n'importe quoi, là, mais l'équipement, c'est, tu fais ça pas d'une shot.
Y a-tu des assurances pour ça? T'sais? Faut-tu que tu te réassures habitation pour ta tente? Ou...
Moi, personnellement, comme j'ai rien de valeur, j'ai pas dit à mes assurances que j'avais une tente puis un petit four au propane.
Non, je pense.
Fait que je pense qu'elle l'a pas faite, mais je sais pas trop. Il conseille de laisser aucun objet de valeur dans tes tentes, de mettre ça dans ton auto pour qu'on ne le voit pas, puis tu vas les portes de ton char.
Puis quand tu y penses, là, mettons que c'est un couple qui sont allés voler, là, t'as juste l'air d'être en train de défaire ton stock complet.
Ah, ben oui.
Puis de quitter. Parce que si tu vas voler juste la tente, mettons, c'est un peu bizarre. Mais si je commence à juste défaire mon stock doucement, ben on peut imaginer que c'était mon terrain, c'était mes affaires.
Il y a deux choses là-dedans. Donald dit l'assurance auto couvre ça. Ça, faudrait voir.
Ah, ouais.
Et il y a Steve Bélanger, il dit peut-être qu'elle s'est juste trompée de camping.
Elle a dit le lendemain, quand elle est arrivée, elle a dit je suis pas au bon emplacement. C'est exactement ça
elle
qu'elle s'est
pensé,
dit. Ma grosse tente rouge, j'ai pas là, j'avoue pas. Puis elle a bien réalisé.
Elle a fait le tour.
On vous demande ce matin, c'est quoi votre pire expérience du camping? Parce que celle-là, c'est comme l'histoire d'horreur. Tu te fais tout voler. Là. Alors, avez-vous déjà vécu quelque chose qui est peut-être pas dans ce sens-là? C'est peut-être pas un vol, mais votre pire expérience.
Le podcast Debout les comiques.
Hey, on s'en va vers ça avec le beau temps. On s'en va vers le camping. Il est 8h03 dans Debout les comiques. Tammy, t'as mis le feu à la messagerie texte avec ce sujet-là d'une Québécoise.
Oui, qui est dans un parc national en Ontario, qui s'est faite littéralement tout voler ce qu'elle avait. Là. Pensez-y, là, le savon à lave-vaisselle, shampoing, casserole, les tentes, évidemment. Tout est parti.
Sauf son restant de Starbucks, c'est quand même drôle.
Oui,
on veut savoir votre anecdote, ta pire expérience de camping, en fait. Et il y a Alexandre qui est là. Salut, Alexandre.
Salut, la gang.
Ça va
bien?
Ça va très bien, Alexandre. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme pire expérience en camping, toi?
Il y a 15 ans, le jeudi soir, on s'était préparé, piné la fifouille avec le pick-up. Tout était prêt. On partait le vendredi soir. Puis moi, pendant la journée, avec mon frère, on était parti chez des amis. Mes parents étaient partis travailler. Ils reviennent travailler, ils nous appellent. Est-ce que vous êtes parti avec le pick-up? Non.
Oh non.
On revient à la maison,
oh
tout était parti. Tout, plus rien. Il y a une voisine à deux maisons de là qui était tout le temps sur son balcon qui dit « Ah, ben c'est jeune, ça a l'air d'être ton gars qui est parti avec le pick-up. » Fait que je n'ai rien dit. Moi, je l'ai vu partir, puis tout était beau. Plus rien.
Ça te gâche.
On a retrouvé le pick-up 3 semaines plus tard à Lévis. On n'a jamais retrouvé la fifouille.
Incroyable. C'est épouvantable. Quelle histoire,
Alexandre. Merci, Alexandre. C'est triste encore, Aline, comme histoire, mais regarde, c'est des affaires qui arrivent malheureusement. Bonne journée, Alexandre.
Bonne journée, les gars. C'est bon. Héros.
T'es fin. Merci. On t'aime beaucoup, nous aussi, Alex.
Et on a une fifouille à vendre
sur Marketplace. Phil, qui est au téléphone. Salut, Phil.
Hey, salut.
Ta pire expérience de camping?
Et moi, là, on avait acheté la tente roulotte à mon beau-père. On part, on dessine, moi et ma conjointe, avec nos deux filles qui étaient, quoi, 7, 8 ans, 10 ans. On décide qu'on part pour faire une fin de semaine à Granby, aller voir le zoo de Granby. Fait qu'on part, on pack les affaires, on s'en va. On arrive là-bas, on monte la tente roulotte. Les deux filles avaient leurs oreillers dans l'auto, fait qu'ils amènent leurs oreillers. On se regarde, moi et ma femme, je dis « Hey, les bagages sont où? » Mais on a tout oublié, les bagages. Tout.
Non!
Fait qu'une fin de semaine qui a coûté cher parce qu'il a fallu se aller se racheter du linge. On partait au zoo le lendemain.
Hey! Quelle affaire, Phil!
C'est épouvantable.
Deux parents incompétents.
Salut.
Ouais, mais on sait. Après ça, crée-moi, là, j'avais une checklist là, à toutes les fois qu'on partait.
Ben, oui, je te comprends.
Hey, donc, pour toujours. Salut, mon Phil!
Bye.
Ça m'est arrivé, moi, on s'en allait à la pêche, puis j'avais oublié mon sac. J'ai oublié mon sac de vêtements pour la pêche pendant qu'on s'en allait vers là-bas.
Ben
et
non.
Plus tu t'en vas vers le nord, moi, il y a un magasin. J'étais une carte de mode Rossi.
Il y a Mélissa qui est en ligne. Salut, Mélissa.
Salut.
Mélissa, quelle mésaventure t'es arrivée en camping?
Oui, ben nous, j'étais avec mon conjoint dans ce temps-là, puis là, avec sa fille aussi, on s'en allait à Valcartier, à Québec, en tente. On monte notre tente, mais mon conjoint, il avait mal au ventre, là, mais vraiment mal au ventre, fait qu'il a décidé d'aller à l'hôpital, parce qu'il était plus capable de s'endurer.
Ben rien.
Fait qu'il s'en va à l'hôpital à Québec, puis il me laisse avec la petite. Finalement, pas de nouvelles, là. Un moment donné, j'appelle, je prends un guest, n'importe quel hôpital, j'essaie de le trouver. Finalement, j'ai la ligne. Ils me disent que c'est une pierre au rein puis qu'il faut qu'il reste à l'hôpital.
Fait que toi, t'es en camping avec ta belle-fille, mais t'en connais pas vraiment, quoi?
Oui. Ça faisait un bon bout de temps, là, quand même, que j'étais avec. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que finalement, il y a une pierre au rein. Il revient d'une petite heure du matin, le lendemain matin, mais il mouille à Sio. Fait que finalement, moi et ma belle-fille, on décide d'essayer de faire quelque chose quand même pour avoir du plaisir. Fait que lui, il dort toute la journée.
Ben oui.
Finalement, le soir, ça se calme un peu. On décide de faire un feu, manger des grillades sur le feu. Puis là, on va se coucher, tu sais. Puis là, à 2-3 heures encore du matin, la petite, elle se réveille. Puis là, c'est elle qui a mal au ventre. Puis là, elle file pas bien.
Ben voyons.
Viens t'en coucher entre nous deux. Puis elle a été malade partout dans nos couvertes, finalement.
Oh non!
Fait que là, on dépasse, puis on s'en va. Vraiment, c'est le pire voyage.
C'est épouvantable.
Merci, Mélissa.
On t'embrasse.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Faites un merveilleux travail.
Merci
tellement. Sur la messagerie, c'est quelqu'un qui veut raconter son histoire et qui ne s'est pas mentionné. Il n'a pas mentionné son nom, d'ailleurs. Si vous nous écrivez au 96.9, écrivez votre prénom. La personne écrit étant motorisée. Il fallait brancher son tuyau pour les eaux sales,
les eaux usées,
entre guillemets. Mm-hmm. Elle dit, j'ai mal installé le tuyau. Ah. Là, j'ai tiré les clenches. Le tuyau s'est débranché. Mm. Imaginez qu'est-ce qui m'a revolé dessus.
Le camping.
Exactement.
Et c'est suffisant pour que j'aille jamais en camping.
Des comiques, de retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Salut Mickaël, Patrick Allô. Lagacé qui rappelait hier que son père est décédé d'un cancer du côlon il y a 20 ans et qu'aujourd'hui encore, il n'y a toujours pas de programme provincial de dépistage du cancer colorectal. On dirait que c'est difficile à croire. On a décidé d'en parler donc avec Mickaël qui est en studio avec nous. Salut Mickaël.
Oui, bon matin. Ça m'a beaucoup touché.
Ah oui, hein?
Oui, cette chronique de Patrick Lagacé, elle est très émotive parce que ça parlait de son père qui est décédé, comme il disait, à la Cité de la Santé à Laval il y a 20 ans d'un programme de dépistage. Et Patrick Lagacé rappelait l'évidence que je vais rappeler ici aux auditeurs. On en a déjà parlé mille fois, mais ça va me faire plaisir de le rappeler. Le cancer du côlon, c'est le troisième tueur au Québec. D'accord? C'est des milliers de gens au Québec qui meurent chaque année et c'est un cancer qui serait évité à 90% si on était capable d'arriver avant, c'est-à-dire au stade où dans le côlon il y a un polype, c'est-à-dire une petite formation bénigne qu'en coloscopie on enlève en 2 minutes. Merci, bonsoir. Donc,
je veux juste devancer, si on se fait enlever un polype, là, c'est une question d'un auditeur aussi, moi j'en ai eu, est-ce qu'automatiquement on est prédisposé à développer un cancer du côlon?
Si on se fait enlever un polype, dépendamment de la taille du polype et de l'analyse qu'on va faire du polype, parce que le polype qui est enlevé va être analysé au microscope, ouais. Ça peut nécessiter effectivement des coloscopies plus rapprochées. La coloscopie de dépistage comme telle n'est pas une finalité, elle peut être le début d'un programme de dépistage qu'on va suivre jusqu'à 75 ans. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est quoi sur lequel chiale Patrick Lagacé avec beaucoup d'émotion. Il dit, et s'il y avait eu un programme imposé par le gouvernement, et si on avait trouvé ce polype à mon père, il serait encore là, il jouerait avec mes enfants, j'aurais profité de lui, il fabriquerait mon deck parce que mon père savait tout faire. C'est ça qui est venu me chercher. C'est-à-dire son père est mort trop jeune officiellement. Et il y a beaucoup de gens au Québec qui meurent du cancer du côlon trop jeune. Et ça fait 20 ans que nous autres, les gastro-entérologues, réclamons à corps et à cri, alors pas seulement à François Legault, au gouvernement précédent, un programme de dépistage comme il peut y avoir pour le cancer du sein. C'est-à-dire on prend une population donnée qu'on identifie comme étant à risque, c'est-à-dire les Québécois et Québécoises de plus de 50 ans, et on leur dit, c'est le temps, on leur envoie un courrier, un email, un texto, whatever, et on leur dit, maintenant c'est le temps, puis vous allez faire un test de dépistage. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que à mettre en place, ça prend... le programme il existe, sachez-le, ok? Il existe. Il est écrit, tapé, corrigé, surligné, highlighté, agrafé, d'accord? Il y a juste qu'à le faire. Mais ça prend une organisation, un coût, une volonté politique, encore une fois. Bon, maintenant, si je voulais faire cette chronique ce matin, c'était pour justement m'adresser aux auditeurs. Comme ce programme n'existe pas, les amis, les auditeurs, les auditrices, si vous avez plus que 45 ans, ça va être le temps de challenger votre médecin, c'est-à-dire de poser la question à votre médecin de famille, de dire « C'est-tu pas le temps que je fasse du dépistage ?» Bon, faire du dépistage, c'est pas forcément une coloscopie, on fait le test sur les selles, hein. On fait la recherche dans les selles saignement occulte, c'est-à-dire un saignement qu'on ne voit pas, et si c'est positif, on fait une coloscopie. Ceci n'est pas vrai si vous avez des antécédents familiaux significatifs, c'est-à-dire si vous avez papa, maman, frère, sœur, des gens très proches qui ont eu des polypes ou un cancer, vous êtes supposé de faire une coloscopie. Je voudrais, chers auditeurs, que vous y pensiez, que vous challengiez votre médecin ou le résident que vous allez voir au GMF la prochaine fois, parce que on n'a pas tous la chance d'avoir un médecin de famille. C'est ça le problème au Québec de ne pas avoir de médecin de famille. C'est que c'est aussi difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas les médecins de famille. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez le droit, quand vous verrez votre médecin, à avoir un accès direct en coloscopie. C'est-à-dire que si le médecin pense que vous êtes justifiable d'une coloscopie, il n'y aura pas à aller voir un gastro-entérologue. Ils peuvent remplir une requête qui s'appelle la AH-702.
Direct.
Et vous serez directement vu par le gastro-entérologue pour la coloscopie. Alors, Billy a parlé du pratico-pratique de sa gastroscopie la semaine dernière. Il a dit que c'était avec moi. Petite digression. Il m'a donc libéré du secret médical.
Oh ah, tu peux y aller, Miguel.
Non, mais sinon, j'aurais pas pu le dire. Sinon, j'aurais pas pu dire qu'il avait une candidose et des hémorroïdes. J'aurais pu... Non, mais sinon, évidemment, j'avais pas le droit d'en parler. Mais je voulais parler aux auditeurs, aux auditrices ce matin du pratico-pratique de la coloscopie. Parce que j'entends les auditeurs et les auditrices, il y en a beaucoup, qui ont peur d'avoir une coloscopie.
Oui,
parce qu'ils ont entendu que si, que ça. Ok. Mais vous expliquez, je vais vous faire une consultation de gastro-entérologie live et vous expliquer c'est quoi une coloscopie.
Ok.
Vous avez juste à boire la veille de l'examen une préparation qui est effectivement un galon.
Un purgatoire.
Très salé,
ça goûte pas super. Okay. C'est-à-dire que le côté gustatif n'a pas été étudié par Martin Le Chem de Val Roberts. Okay. On n'est pas là pour faire de la gastronomie.
Mais ça se fait.
Le but est effectivement de vider, de nettoyer l'intestin pour que ça arrive propre. Plus c'est propre, plus le gastro-entérologue va très bien voir ça. Il y a une petite diète à respecter pour non plus pas qu'il y ait trop de résidus alimentaires. C'est pas une diète très méchante, mais disons, c'est pas ce jour-là que vous allez grossir. Et quand vous arrivez le lendemain pour la coloscopie, vous allez tomber sur un gastro-entérologue comme moi qui est forcément sympathique et agréable.
Est-ce qu'il arrive à l'heure, celui-là?
Toujours. C'est-à-dire en dedans de 2 heures de retard.
Ah, voilà,
ça s'appelle à l'heure. Et puis, on va vous faire à ce moment-là une sédation. Il n'y a pas au Québec de coloscopie sous anesthésie générale, d'accord? C'est-à-dire, vous n'allez pas être endormi comme pour une opération.
Sédation,
vous allez avoir de la sédation, c'est-à-dire on vous injecte du Versed et du fentanyl.
J'ai un peu dormi, moi, quand même.
Voilà, vous allez être déconnecté, solide, comme fin de soirée cégep.
Ce qui n'est pas désagréable.
On ne peut pas conduire.
On ne peut pas conduire pendant 24 heures. Ceci est légal, d'accord? Quand vous avez reçu du Versed et du fentanyl pendant 24 heures, si jamais vous avez un accident et que l'assurance découvre ça, vous êtes dans le trouble. Okay. Ceci est légal et c'est pour ça aussi qu'il faut que quelqu'un vous accompagne et vienne vous chercher. Et quand on vous sédate, on va faire l'examen, ça prend 10, 15 minutes. Ouais. Et le risque que vous ayez une perforation ou une complication est de l'ordre de 1 sur 10 000. C'est-à-dire, c'est très, très peu. C'est un des plus petits risques qui existent.
Il y a plus de chances avec ta soirée de cégep.
Absolument.
Michael, c'est très, très clair. Ouais. Écoute, donc, allons nous faire dépister. Allons, demandons-le à notre médecin de famille. Si vous avez des antécédents proches, n'hésitez pas. Allez-y, vous aussi. On peut prolonger des vies. On pense à plein de personnalités.
Et je pense à Patrick Lagacé. Si ce matin, on avait sauvé des papas d'autres Patrick Lagacé qui nous écoutent, je veux dire, j'adorerais ça.
C'est inestimable. Envoyez-nous vos questions pour le doc sur le 96.9, 96.9. Gênez-vous pas. Il est encore avec nous pour quelques minutes. On répond à vos questions d'ordre médical. Ici au 96.9, c'est quoi?
Bon, ça.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est drôle, Michael, parce que tu nous parlais du dépistage du cancer colorectal, puis je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Patrick Bourgeois, décédé à 55 ans d'un cancer du côlon qui aurait probablement pu être évitable. Pris à temps, à 90%. Oui. Même chose avec George Thurston, boule noire, âge, 55 ans. Jerry Boulet avait 45 ans quand il est décédé d'un cancer du côlon. Probablement que ces trois-là, entre autres, ils auraient pu avoir
des soins
avec leurs petits-enfants, mettons, disons-le comme ça. Là.
Absolument. Puis tu vois, il y a Karine sur la messagerie texte qui nous a écrit un message par rapport justement à notre sujet aujourd'hui. Elle dit, moi, ma mère a eu des cellules cancéreuses dans le côlon. J'ai présentement 27 ans. Oui. Fait qu'elle dit donc, à quel âge est-ce que j'en parle à mon médecin et je veux faire du dépistage. Est-ce que j'attends à 45 ans?
10 ans avant l'âge du diagnostic de ta mère, Karine.
Okay.
Exemple, ta mère a eu son diagnostic à 62 ans. Toi, maximum à 52 ans, faudra que tu aies eu ton dépistage. Okay. Mais comme c'était ta mère et que c'est donc un facteur de risque très important, c'est un sur-risque, je commencerai les dépistages à 45 ans. C'est de plus en plus les dépistages d'âge à gros facteurs de risque vers lesquels on se dirige. OK, Karine?
Il y a Michel qui nous demande comment savoir si on a eu la COVID longue ou si on en est atteint.
Alors, figure-toi que la COVID, c'est encore tellement frais qu'il y a un débat là-dedans dans la communauté scientifique.
Okay.
Quand les symptômes de COVID vont durer longtemps, et les symptômes covidiens qui durent le plus longtemps sont les symptômes d'ordre neurologique et généraux, les trois symptômes les plus fréquents de COVID longue sont les troubles du sommeil, les troubles de la concentration et la fatigabilité extrême.
Ok.
Il y a une partie de la communauté scientifique qui dit si ça dure plus que un mois, vous êtes déjà dans une situation de Covid longue, mais le consensus se dirige vers 3 mois, 12 semaines. Fait que à 12 semaines, c'est à partir du jour du diagnostic officiel de la Covid, que ce soit un test rapide ou un test PCR. Donc, à partir de 3 mois, il n'y a plus de discussion que c'est une Covid longue. Ça nécessite une consultation spécialisée. Okay, Je vous rappelle qu'à Montréal, à l'Institut de recherche du CHUM, il y a des consultations spécialisées pour ça. Ça peut nécessiter un neurologue qui fait des diagnostics et des suivis. C'est important aussi potentiellement pour vos assurances. S'il y a une conséquence sur votre job, vous avez besoin de papiers de docteur spécialisé qui dit que vous allez peut-être être limité.
Okay. Il y a Marc Lacroix qui nous demande au lever, de temps en temps, je crache et j'ai la langue noire. Oui. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Je ne suis pas un fumeur.
Hein? Non, tu n'es pas obligé de t'inquiéter, mais par contre, à l'instar de Sieur Tellier, tu as peut-être une candidose oropharyngée, c'est-à-dire de la cavité buccale. On a souvent tendance à penser que les candidats, les champignons, les fungus, c'est blanc ou c'est jaune. Sur la langue, ça peut très souvent être noir.
Ah ouais.
Donc je commencerai...
Qui crache comme du jus de champignon.
Absolument.
Là,
donc je commencerai par me brosser la langue le matin et le soir quand tu fais le brossage de dents. Évidemment avec une autre brosse à dents que celle avec laquelle tu te brosses les dents.
Oui,
mais commence par te brosser la langue. Demande à ton pharmacien un bain de bouche qui contient un produit antifungique type nystatin que tu pourras cracher. Et si ça marche pas, tu pourras aller consulter.
OK.
C'est quelque chose. C'est la réalité du corps humain.
8-1 sur le 96-9.
Un petit peu dégueulasse, le jus de champignon.
Mais non.
OK, parfait.
Mais non.
Alors,
c'est la vie. Le champignon, c'est la vie.
Valérie a 36 ans. J'ai des menstruations qui sont affreusement abondantes, qui m'empêchent même certaines activités. J'ai des grands enfants, on n'en veut pas d'autres. Mon médecin privilégie le port d'un stérilet avec hormones au lieu d'enlever l'endomètre, comme la plupart des femmes de ma famille avant moi. Quels sont les avantages au stérilet outre la contraception?
Ben, effectivement, la situation as des règles, des menstruations trop abondantes, au bout d'un moment, il va y avoir un problème, c'est que tu vas perdre de l'hémoglobine, oui. Tu vas perdre du fer, il va y avoir une anémie. Donc, on peut pas laisser ça, faire ça comme ça. Donc, pour les gens qui ont des menstruations trop abondantes, il faut consulter, parce qu'il va falloir des examens, parce que des fois, les menstruations trop abondantes peuvent révéler la présence d'un polype ou d'un fibrome à l'intérieur de l'endomètre, qui peut tout à fait aller se faire enlever sans qu'on enlève l'utérus. Et après, il va y avoir des solutions, soit avec des pilules progestatives, soit avec des stérilets, pour régulariser le cycle hormonal, mais ça nécessite aussi, tu sais, des prises de sang pour voir où on en est dans ces hormones, ces oestrogènes, les hormones sécrétées par le cerveau, ça s'appelle la LH, la FSH, tout ça est un phénomène un peu complexe, mais tout ça peut se réguler et vraiment enlever l'endomètre, c'est-à-dire faire l'opération qui s'appelle une hystérectomie, ça vient vraiment à la fin du bout de tout ça.
Ouais.
Donc, il y a tout un processus qui est géré en général par le gynécologue. Donc, pour répondre à cette patiente, je lui dirais, va voir ton médecin et dis-lui, regarde, je voudrais bien l'avis d'un gynécologue et j'espère que tu auras un avis gynécologique avant d'être ménopausée.
Il y a Laurie qui demande, Doc, est-ce que c'est vrai qu'on devrait continuer le lait 3,25% pour les jeunes enfants jusqu'à 5 ans?
Alors, on fait qu'est-ce qu'on veut parce que globalement, ce lait-là contient à peu près très exactement les mêmes choses que le lait à 2%. Ce qui est important, c'est de, si l'enfant tolère bien ça, de continuer le lait parce que c'est un apport de calcium qui est très important. C'est un apport de vitamine D qui est très important. Au Québec, c'est d'autant plus important puisque je vous rappelle qu'on a un ensoleillement
le pays nordique est vraiment,
compliqué. Et 3,25 versus 2%, c'est juste la quantité de gras qu'il y a là-dedans. Bon, maintenant, 2% versus 3,25%, pour un enfant qui est en pleine croissance, le 3,25, c'est vraiment très adéquat. Donc, le choix est à la maman, mais je veux dire, il n'y a pas d'incitation particulière à continuer ça. Elle peut tout à fait, jusqu'à ce qu'il ait fini sa croissance, c'est-à-dire au moins jusqu'à 17 ou 18 ans. C'est vraiment, en tout cas, ce serait mon choix.
Bon, je bois du lait encore, moi. Est-ce que je devrais arrêter, tu penses?
Mais surtout pas. T'as de la chance. C'est parce qu'en fait,
en
général, avec l'âge, on a du mal à digérer le lait parce que c'est l'enzyme,
les
lactases
pour
digérer
le
lait qui diminue avec le temps. Et en fait, toi, t'arrives encore à le digérer. Bravo.
Faudrait peut-être arrêter la croissance.
Ouais,
saviez-vous que? As-tu un saviez-vous que pour nous autres?
Oui, j'ai un saviez-vous que. Jusqu'à hier, on en avait parlé la semaine dernière, ça a beaucoup fait parler nos auditeurs, nos auditrices, c'était la semaine de sensibilisation à la santé mentale. Et je voulais vous faire un saviez-vous que, pour finir, c'est vrai, c'est fini hier, mais regarde, on peut la santé mentale, on peut-tu en parler 24 heures de plus? On va parler de ça. Saviez-vous que avoir une vie sociale et sentimentale active avec des contacts physiques, c'est-à-dire toucher ses amis, faire des câlins, se faire des accolades régulièrement, fait monter le taux de sérotonine et de dopamine dans le cerveau.
C'est le bonheur.
Et donc améliore la santé mentale.
Ouais.
C'est le grand facteur de la socialisation qui va améliorer significativement. Il y a beaucoup de littérature là-dessus pour la santé mentale. Donc maintenant qu'on nous dit qu'on va lever un
les
mesures de distanciation sociale, etc., on se demandait la semaine dernière qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa santé mentale.
Échangisme chez Ben Soussan.
C'est socialiste.
À grand
faut
coup
que je
de sérotonine.
Je sais pas si elle est d'accord.
C'est une invitation depuis que tu as vu l'intérieur.
Ben
on
oui,
dirait qu'elle
ne se peut plus. Je lui ai beaucoup trop fait monter sa sérotonine.
As-tu ta caméra? As-tu ta caméra?
Merci, Doc, Michael Bensoussan. Passionnant.
Bon,
vous avez encore plein de questions. Gardez-les, vos questions. On va recevoir le Doc encore lundi prochain ici dans Debout les comiques.
Le podcast Debout les comiques.
Cherchez le numéro du club vidéo en fouillant dans les pages jaunes ou demandez à l'opératrice parce que Martin Cloutier et moi, on repart le cabaret comique. Hey, tu fais chaud en fin de semaine.
Maison.
Hey, puis là, tu es parti.
Maison. Hey, Zach était tellement content. Là.
Toi, t'as combien?
80, toi?
Moi, je la garde à 66.
66, c'est frais pour une piscine, Billy.
Je te parle pas d'une piscine, je te parle de mon air climatisé. Ça fait tellement du bien de la repartir. Hey, Martin!
Oui, Billy!
Ça doit pas être facile, la fête des mères pour la fille de Valérie Roberts.
Comment ça?
Ben, son père, c'est le chef Martin Junot. Faut qu'elle fasse des bricolages en macaroni fait maison à langue de sèche sur coulis de colle en truffe parmesan.
Hey, c'est le retour des cubes d'énergie dans les écoles.
Ah, c'est bon ça. Ça va apprendre aux enfants à bouger plus, faire du sport.
Ça va surtout leur apprendre à mentir sur le nombre de cubes d'énergie qu'ils ont fait.
Hey, Martin!
Oui, mon Billy!
Justin Trudeau a fait une visite surprise en Ukraine.
Bon, qu'est-ce qui te fait dire que c'est une visite surprise?
Ben, regarde les photos dans le journal. Il a pas eu le temps de se déguiser en costume traditionnel.
Ouais. T'es arrivé trop vite.
Petite blague cute! Yay! Qu'est-ce qu'un râteau dit quand il croise une pelle?
Je sais pas. Hein?
Chanceuse, t'as eu des broches quand t'étais jeune?
Oh! Oh, c'est beau! Oh, c'est à réutiliser dans les milieux scolaires, en garderie. Oui. Si on veut provoquer un éveil par rapport à l'hygiène buccale, là, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là.
Petite blague pas cute! Oh, oh. Qu'est-ce qu'un cocaïnomane fait dans une pourvoirie?
Je sais pas.
Une ligne à pêche.
Ah bon?
Ça, Tammy?
Ça, c'est à ne pas réutiliser. Dans le vraiment pas. On veut pas en faire des Hells Angels.
Martin! Oh, j'aime ça. Martin!
Oui, Billy!
J'ai été voir le film Doctor Strange en fin de semaine.
Ah oui, puis c'était-tu bon, hein?
Je sais pas. Ils m'ont sorti du cinéma parce que j'ai baissé mes culottes.
Ben alors, pourquoi t'as fait ça?
Hey, les rares fois qu'on a la chance de voir un docteur, va toujours bien en profiter pour y montrer mes problèmes. Et d'ailleurs, parlant de super-héros, c'est quoi la différence entre les Avengers et Tammy Verge?
Je sais pas.
Dans les Avengers, ils ont tort. Tammy a jamais tort!
Jamais! Okay? Jamais!
Le podcast Debout les comiques.
On joue au baseball, mais il y a un chien dans le fond, dans le champ.
Ben c'est ça l'affaire. C'est une lettre ouverte qui est apparue dans la presse plus ce matin. Marc Chartrand, on va le dire, de Longueuil. C'est un sportif, lui. Il a été même prof d'éducation physique. Il a un fils. Il dit, moi, là, j'ai vraiment transmis ma passion à mon fils. On fait plein de sports. Donc,
parfait.
Le baseball, l'été. Et là, il y a quelque chose qu'on constate. Il y a un beau terrain de baseball tout près de chez eux, au coin de la rue. Il y a 2 ans, il a été rénové. Il dit, à chaque fois qu'on arrive, il y a des propriétaires de chiens qui sont là. Il dit, je les comprends, c'est un beau terrain clôturé.
Ah oui, c'est vrai.
Ton chien est en sécurité.
Tu le détaches, il part, puis t'as une entrée à boucher au pire.
Tu envoies des bâtons, puis bon, évidemment, il en profite pour faire ses besoins. C'est pas tous les propriétaires qui ramassent les excréments.
C'est
pas tous les propriétaires non plus qui ramassent les bâtons qu'ils ont lancés aussi. Ce qui fait que, de un, le terrain, il est dangereux, il est moins salubre aussi. Mm-hmm. Et de deux, ben c'est gênant quand t'arrives au terrain puis que t'as des propriétaires de chiens qui sont là en majorité. Il y a des chiens de toutes les grosseurs. Ben souvent, ça va décourager père et fils d'aller s'envoyer des balles, d'aller frapper des balles. Il dit, moi, je suis en mode solution. Ben il dit, je trouve que peut-être que l'arrondissement, peut-être le conseil municipal...
Y a-t-il un déficit de parc à chiens, mettons, qui pourrait expliquer ça? Ben non, c'est plus simple d'aller là que d'aller au parc.
Il le mentionne pas. Okay. Lui, il s'intéresse à son terrain de baseball puis il dit, il est pas accessible. Lui, ce qu'il propose donc au conseil municipal, au conseil d'arrondissement, c'est peut-être de poser des affiches à la porte d'entrée. Sur les clôtures du terrain de balle ou à l'entrée des abris de joueurs, puis de dire, ben c'est interdit d'utiliser d'amener des chiens ici. Il faut trouver un autre endroit. Il y en a à Longueuil, assurément, des parcs à chiens. Il dit, et de dire aux gens, si vous l'utilisez, ben vous pourriez avoir une amende.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
Ben, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai tendance à penser que la cohabitation se pourrait dans la vie, mais moi, je prioriserais quand même les joueurs de baseball qui arrivent. Si
ben
je suis
oui,
propriétaire
absolument.
De chien, puis que je veux faire courir ma haut, puis que, effectivement, je profite de la grandeur du terrain, mais premièrement, oui, je me ramasserais. Mais je comprends que c'est pas tout le monde qui fait ça, c'est pas tout le monde qui a ce souci-là.
C'est ça,
fait que qu'est-ce qui arrive comme qui arrive tout le temps, c'est tu vas être pénalisé pour ceux qui n'ont pas de classe, autrement dit.
Mais
tu sais, ça arriverait pas dans un terrain de tennis. Tu sais, t'amènerais pas des chiens dans un terrain. Tu vas me dire qu'ils courraient pas parce qu'ils n'ont pas d'espace.
Non.
Mais en même temps, n'importe qui ferait, ben, excuse-moi,
Il pourrait avoir trois coins à l'Assomption.
Mais dès qu'un joueur arriverait, fait, hey, excuse-moi, tu t'en vas bien, c'est un terrain de tennis. Fait que, tu sais, le terrain de baseball est fait pour être un terrain de baseball.
Oui.
On se questionnerait pas.
Fait que, là, pour moi, le problème, c'est la ville, faut qu'il y ait accès à un parc à chiens, ça, c'est normal, puis ça en prend un.
Ça.
Mais on peut pas, selon moi, ça donne rien de mélanger les choses. T'sais, si je m'en vais jouer au baseball dans un parc à chiens, ça se peut que les gens fassent comme, excuse-moi, si c'est un parc à chiens. Mm. Fait que
oui.
Je pense que l'inverse est logique pour moi.
Je vous la lance la question. Vous êtes propriétaire de chien ou vous êtes joueur de baseball, peu importe. Est-ce que ça devrait être interdit?
On donne-tu une amende, là?
On dit
interdit, autrement, vous n'allez pas y avoir une amende? Ou bien on est plus ouvert?
On est dans la municipalité, puis il n'y a pas du baseball tout le temps, puis je fais courir mon chien, puis je fais pas de mal à personne.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.